Grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Et si notre condition humaine était d'être fatigué? C'est la question que se pose ce mois-ci le mensuel Philosophie Magazine. Fatigo, ergo sum, je suis fatigué, donc je suis, pour paraphraser Descartes. Nous sommes tous fatigués à divers degrés, crevés, vidés, HS, KO debout, à plat, débordés. La vie quotidienne reste plus que jamais un chemin d'épuisement permanent, avec de nombreuses sources de fatigue quotidienne. Épuisement lié au temps de transport, à la vie familiale, professionnelle, aux écrans chronophages et hypnotiques, fatigue émotionnelle, attentionnelle, fatigue psychique, fatigue liée à certaines pathologies psychiatriques comme la dépression, sans oublier la saine fatigue physique après un effort sportif, une longue marche ou des ébats amoureux. Nous verrons ce matin si la fatigue est une maladie, pourquoi elle reste un symptôme majeur pour détecter certaines pathologies. On s'intéressera également aux symptômes du syndrome de fatigue chronique et puis nous verrons comment récupérer d'une fatigue passagère. Nous attendons toutes vos questions et témoignages au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Baptiste Beaulieu.
Bonjour Ali.
Médecin et romancier en duplex de Toulouse. On retrouve votre chronique tout à l'heure vers 11h25.
Oui, je vais parler fatigue, un peu de colère aussi, injustice et plaquettes de beurre.
A tout à l'heure Baptiste Beaulieu, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébi.
Bonjour Philippe Xavier Jean.
Bonjour Ali.
Vous êtes docteur en sciences et génie des activités à risque, chercheur associé à Mines Paris Tech et vous avez dirigé un très gros et passionnant dictionnaire de la fatigue publié chez Drose. Bonjour docteur Adrien Chaboche.
Bonjour.
Vous êtes médecin et vous avez publié en poche chez J'ai lu, Libérez-vous de la fatigue. Bonjour Martin Legros.
Bonjour.
Habitué de l'émission, rédacteur en chef de Philosophie Magazine. À la une, ce mois-ci, un beau dossier intitulé « Pourquoi sommes-nous si fatigués ?» C'est un sujet philosophique, la fatigue, mon cher Martin Legros.
Oui, pas tellement en réalité. Les philosophes, étrangement, font le pari que nous sommes éveillés, actifs, et que donc l'esprit actif est l'objet de leur réflexion davantage que le moment de fatigue. Mais vous l'avez dit en introduction, la fatigue est en effet la grande plainte contemporaine. Dès qu'on se rend compte, comment tu vas, etc. Je suis crevé, je suis épuisé. Et donc on avait voulu essayer de comprendre à la fois pourquoi est-ce qu'il y a peut-être quelque chose est arrivé à la fatigue. Certains écrivains ont remarqué ça dans le XXe siècle déjà, avec les expériences concentrationnaires, mais aussi avec le fait que la nuit avec les grandes villes, à l'espace de la nuit, à s'amenuiser. Et plus largement aujourd'hui, on se rend compte que le capitalisme a peut-être pris l'assaut du sommeil, comme le dit Jonathan Crary, et par une dialectique très étrange, a rendu le sommeil à la fois précaire, fragile, et nous le revend sous la forme d'une marchandise. Et donc nous sommes pris dans une sorte de spirale infernale, et ce à quoi nous essayons de réfléchir, c'est la manière dont le sommeil est en réalité non pas une maladie, mais une dimension fondamentale de la condition humaine, et que c'est en assumant cette dimension que peut-être on sera moins fatigué.
Philippe Zadjeja, le petit Larousse, illustré définit la fatigue comme la sensation désagréable de difficulté à effectuer des efforts physiques ou intellectuels provoqués par un effort intense, par une maladie ou sans cause apparente. Et pour le Robert illustré, c'est l'affaiblissement physique dû à un effort excessif, sensation pénible qui l'accompagne. Ce sont des définitions qui vous suffisent.
Ce sont les moins mauvaises que j'ai pu trouver d'ailleurs. Alors, je ne les connaissais pas parce que je n'utilise pas les versions illustrées, j'ai passé l'âge, mais c'est une bonne référence, ce sont deux bonnes références. Ce qui est intéressant là-dedans, dans ces deux définitions, c'est la notion d'effort parce que elle intègre à la fois la dimension physique, donc qui ouvre la piste ou la porte à des analyses biomédicales, et puis la dimension subjective qui ouvre la porte là à une analyse plus ontologique, métaphysique, phénoménologique. En tout cas, pour la philo et les sciences humaines et sociales, c'est pain béni. Et je crois que c'est dans cette complémentarité-là que ces deux définitions-là sont intéressantes.
De quoi la fatigue est-elle le nom? Chacun d'entre nous détient une définition personnelle, intime de cette sensation. Nous avons tous des mots pour dire notre fatigue. J'ai la flemme, je suis KO, je suis vidé, j'ai les batteries à plat, je suis rincé.
Je suis tanné, dit-on au Québec. Au passage, je ne suis plus à Mines Paris Tech, mais je suis à l'université de Sherbrooke au Québec. Je suis pompé, je suis crevé, effectivement. Tout un vocabulaire d'aplat, d'aplat, mais aussi de vampirisation, quelque part. Tout un vocabulaire lié à l'énergie ou à la perte d'énergie.
Au corps. Et pourquoi pourquoi la médecine s'intéresse assez peu à la fatigue ?
La médecine, mais mon confrère là-bas nous en dira plus tout à l'heure, a arrêté de s'intéresser scientifiquement, c'est-à-dire avec une approche positiviste de la fatigue, j'ai envie de dire aux alentours de la Première Guerre mondiale, parce que elle s'est heurtée, après avoir tenté d'appliquer les lois de la physiologie, notamment à la fatigue musculaire, et en tentant de les étendre à la fatigue intellectuelle, elle s'est heurtée à la subjectivité. Et ça, la médecine ne sait pas faire.
Adrien Chaboche.
Il faut rappeler effectivement que la plainte fatigue, c'est quand même le deuxième motif de consultation en médecine générale. C'est énorme. Mais ça nous ouvre à une réflexion. C'est-à-dire que dès lors que déjà on commence par former des médecins en leur demandant d'être réveillés 24 à 48 heures de suite, comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans notre savoir ? J'ai même qu'il y a une espèce de refoulement, mais surtout de protection. Il ne faudrait pas être fatigué dans une société où on est hyper en forme et où le devoir, c'est d'être hyper en forme. Et juste un petit recadrage, c'est que la fatigue et le sommeil, c'est juste notre troisième besoin vital. Après, respirer et boire. Manger, on peut tenir des semaines. Boire, bon, c'est 48 heures. Respirer, 2 minutes. Dormir,
maximum.
Maxi, si on est entraîné. Mais qu'on soit entraîné ou pas entraîné, ce qui est fascinant, le sommeil, c'est quelques jours de survie.
Docteur Adrien Chaboche, la fatigue n'est pas une maladie, mais elle est le symptôme d'autres maladies.
Absolument. Alors c'est ça qui est... La fatigue, c'est tout et rien en même temps. Et ce qui est très intéressant, c'est dans la langue française, à la fois ce champ lexical qui permet de nommer, comme vous l'avez énoncé avec pertinence, tous ces mots. Et pourtant, ce que je vois, ce que j'entends en consultation, pas plus tard qu'à pas une heure, c'est « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Et on met pas de mots. Alors, il y a un rôle du médecin, effectivement, et notamment du médecin de premier recours, le médecin généraliste, de débroussailler, de savoir un peu où est-ce qu'on se situe, avec des identifications de signaux de danger et de gravité, hein, notamment 4 points cardinaux. Est-ce que j'ai perdu du poids fortement ? Est-ce que je suis... éteint en termes de fatigue, c'est-à-dire je n'arrive même plus à me lever. Est-ce que j'ai de la fièvre ? Est-ce que je n'ai plus d'appétit ? Bon, ça c'est ce qu'on appelle les signes généraux, 4 points cardinaux, qui sont gravés dans l'esprit des médecins formés. Ça veut dire signal d'alarme. Ça veut dire signal d'alarme de quelque chose qu'on n'aurait pas envie d'avoir, une maladie...
Et oui, la fatigue signale le dysfonctionnement d'un organe, d'un appareil ou d'un système, d'une inflammation chronique, ou bien ça peut être le premier symptôme ressenti d'un cancer ou d'une dépression.
C'est ça, exactement. Alors évidemment, on va d'abord chercher les causes les plus graves, mais ça c'est notre formalisation de pensée, attention, grave, urgent, on met de côté, on cherche. Une fois qu'on a passé ce cap-là, ce qui représente 99% des situations de fatigue, alors là, on a tout l'éventail qui s'ouvre. Et si on part dans un processus de réflexion qui vise à mettre la cause psychique comme, je dirais, la dernière cause, hein, après avoir éliminé toute cause organique, on connaît le dicton, le créneau, justement, qu'il faut respecter, mais là, on se livre à une bataille qui va faire qu'on va multiplier les examens complémentaires dans tous les sens, sans vraiment raisonnement construit, c'est-à-dire surtout sans incorporer le patient, à dire et à décrire ce que lui ressent, ce qui va permettre de préciser, de le rendre unique.
Baptiste Beaulieu, je rappelle que vous êtes médecin généraliste à Toulouse, c'est l'un des premiers motifs de consultation chez vous, la fatigue, quelle que soit sa forme.
C'est, vous savez, avec le mal de dos, c'est un des motifs qui revient le plus fréquemment. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué parce qu'on n'imagine pas la fatigue comme une pathologie en soi. On l'imagine toujours comme le symptôme de quelque chose d'autre. Et je pense que ça arrange bien aussi notre système productiviste où on n'aurait pas le droit d'être fatigué pour rien. C'est-à-dire qu'il faudrait toujours qu'il y ait une raison médicale à ça. Alors qu'on peut être parfois juste fatigué à cause du monde difficile dans lequel on vit. Il faut toujours produire, être sur le pont et bosser. Et donc, c'est vrai que c'est ça reste cantonné à l'état de symptômes et non pas de pathologie en soi.
Philippe Zavija.
Moi, j'entends dans ces différentes analyses et en filigrane un peu la notion de D'indignation, c'est le mot qui me vient à l'esprit comme ça quand j'entends ces restitutions de consultations médicales. Je ne sais pas pourquoi je suis fatigué. Je trouve que c'est pas normal. Je demande à un tiers qui est institutionnalisé, donc en l'occurrence le corps médical, de se prononcer pour me dire ce qui m'arrive et crier quelque part que ce n'est pas normal. C'est ça que j'appelle de l'indignation. Et on revient à la notion d'effort, c'est que tout ce qu'on me demande d'accomplir pour être, allez, on va dire un citoyen modèle, un travailleur modèle, quelque part, ça me détruit, petitement ou grandement, et je trouve que ce n'est pas normal. Et je trouve que dans la fatigue, il y a comme un cri de révolte, plus ou moins crypté, comme il y en a dans le mal de dos, d'ailleurs. Mmh. Parce que j'en ai plein le dos. Mmh. J'en ai plein le dos. Il faut pas oublier cette dimension-là. La fatigue peut conduire à des comportements plus agressifs, voire plus structurés, de nature sociale.
Martin Legros.
Oui, aucune contradiction. Simplement, j'ajouterai une dimension, c'est que la fatigue peut être un mal, mais elle est aussi une ressource. Elle est un signal, bien entendu, qu'il faut prendre en compte, mais je dirais qu'elle est aussi un état, une situation qui tient peut-être à notre condition, c'est-à-dire que il me semble qu'à la différence du chat qui n'a aucun problème pour dormir, nous avons besoin de travailler. C'est Pierre Paché qui disait il faut une force pour dormir, la force de dormir. Nous avons besoin de... Nous ne basculons pas immédiatement dans le sommeil et donc nous sommes des êtres qui sommes inquiets. Et c'est cette inquiétude qui est fatigante. Pourquoi ? Parce que nous avons à être, tout simplement. Nous avons à accomplir des choses. Alors, bien entendu, le capitalisme contemporain ou l'idéologie contemporaine de la performance s'empare de cette aspiration. Reste que je ne voudrais pas qu'on réduise entièrement la fatigue au produit d'un grand dispositif social qui sera emparé d'êtres sains et les a rendus malades. La fatigue peut être aussi un état de vigilance et une ressource.
Allez, nous attendons toutes vos questions et vos témoignages sur la fatigue physique, psychique, existentielle au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. Alexia Rivière, Clara Marliot et Julien Macarez m'ont aidé à préparer cette émission réalisée par Claire Destacan. Et je vous propose d'écouter une chanson de 1983. Cette année-là naissait le chanteur Mika et disparaissait Hergé. Belle journée à l'écoute de France Inter.
About 17, he was strong, playing my favorite song, and I could tell it would be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it would be long that he was with me. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. Yeah.
Une chanson qui donne de l'énergie, Joan Jett and the Black Earth, interprétée I Love Rock and Roll.
Fatigué ?
Crevé.
Grand bien vous fasse.
Ah, je suis fatigué, moi. T'es pas fatigué, toi ?
Ali Rebéi.
Moi, je frise le coma.
Sur France Inter.
10h21 et on attend ce matin toutes vos questions et témoignages sur la fatigue. Docteur Adrien Chaboch, la fatigue, vous nous l'avez dit tout à l'heure, est un motif majeur de consultation. Comment se passent vos investigations? Tiens, je viens vous voir parce que je suis fatigué. Quelles questions vous me demandez?
Est-ce que ça va? Bonjour Aline. Non, il y a une double perspective à avoir qui est nécessaire. Il y a à la fois la casquette médicale qui doit être en charge d'un travail d'élaboration, de décryptage du symptôme. La plainte, c'est la fatigue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si vous tapez dans un moteur de recherche médicale asthénie ou fatigue, vous allez trouver toutes les causes, de la plus simple, infectieuse, jusqu'au plus grave et complexe, voire même pas connue. Donc, on a un travail de décortiquage qui est important. Ça, c'est toute la formation médicale qui le permet. Et ça va passer par quoi? D'abord, par écouter le patient. J'ai bien dit écouter, pas interroger. C'est pas des questions fermées, est-ce que oui, non. Non, on va essayer d'ouvrir. D'ouvrir en retrouvant des dimensions du patient. Pas un patient plat, je suis fatigué parce que je travaille trop. Ok, merci, au revoir. Non, pas du tout. On va réouvrir. Bah oui, d'accord. Mais alors, le boulot, comment ça se passe? Et la vie de famille, comment ça se passe? Est-ce que vous avez une activité physique? Est-ce que vous avez? Et on ouvre. Déjà, on est en rapport avec la personne. Ce temps d'entretien, il est capital. Et un autre temps capital, c'est pas parce qu'on est fatigué simplement qu'on va pas toucher le corps. Donc le temps capital, c'est de déshabiller le patient et de le toucher, de le regarder, de le toucher, de l'examiner. C'est un rapport au corps, parce que c'est un rapport au monde, la fatigue. À l'issue de ça, on va revenir, on va faire la synthèse, et là, le médecin doit faire preuve de professionnalisme en n'allant pas nécessairement à ouvrir sur une étoilée de prescriptions d'examens biologiques. On peut en avoir, faut pas non plus se dire « Ah non, je vous en prescris pas parce que c'est juste de la fatigue ». Attention, il faut pas passer à côté de quelque chose. Donc un examen biologique peut être nécessaire.
Qu'est-ce qu'on recherche, tiens, justement?
On va rechercher dans les très grandes lignes, notamment par exemple une numération formule sanguine, c'est-à-dire l'étude des globules rouges, blancs. On va chercher s'il y a une anémie, un manque de globules rouges, s'il y a une activation du système immunitaire. Il faut bien se rappeler, par exemple, manque de fatigue, carence de sommeil, ça augmente significativement le risque de tomber malade, c'est-à-dire d'avoir une infection. Pourquoi? Parce que notre système immunitaire est en berne. Donc on va chercher sur ça, chercher s'il y a un syndrome inflammatoire, on va vérifier s'il y a des éléments qui nous y conduisent, le bilan du fer, pour vérifier si on a une fatigue liée à une perte de fer.
Bilan endocrinien aussi?
Le bilan endocrinien peut se discuter.
Pourquoi?
Alors parce que chez un jeune de 20 ans, chercher un problème thyroïdien, peu fréquent. Mais attention au piège. Attention au piège, justement. C'est toute la finesse. C'est-à-dire que, on aurait tendance à se restreindre, à ne pas le faire parce qu'on se dit, oh, probablement que non. Sauf que si on passe à côté, alors là, c'est dommage. Donc, il y a vraiment cette finesse du praticien à identifier si cette fatigue que je perçois va nécessiter un bilan endocrinien. Pas parce qu'il y a peut-être une dysthyroïdie ou une maladie de la thyroïde, mais parce que notre état de fatigue mentale et psychique peut retentir sur la thyroïde indirectement, sans nécessairement qu'il y ait une maladie. On peut avoir un stock de fer bas, sans avoir perdu du sang, mais parce que la fatigue a consommé ça.
Philippe Zawiecki, je rappelle que vous êtes l'auteur du dictionnaire de la fatigue sous votre direction. Une thérapie peut également provoquer un état de fatigue. Je pense évidemment aux chimiothérapies, aux radiothérapies, à la prise de certains médicaments comme les benzodiazépines.
Alors oui, mais on n'est pas dans mon domaine de compétence.
Vous avez écrit le dictionnaire, vous avez une vue globale.
Oui, bien sûr. Oui, on a, comme avec tous les traitements, un certain nombre de phénomènes indésirables. Alors les plus fréquents sont la radiothérapie, la chimiothérapie.
La prise de certains médicaments, Adrien
Les Chaboch, antihistaminiques.
La prise de certains médicaments fatigue aussi.
Oui, tout à fait. Et notamment, par exemple, paradoxalement, on parlait de la santé mentale, dans un état dépressif caractérisé. Ok, il y a un médicament qu'on va peut-être prescrire, les benzodiazépines ou bien un antidépresseur. Certains vont être stimulants, d'autres vont être plutôt lissants, calmants, et participent, du coup, aussi à avoir une perception d'une forme de fatigue. De là, faut tout identifier, tout décortiquer. Et surtout, c'est ça qui va être déterminant une fois qu'on a commencé à mener l'enquête, c'est de réintroduire le patient dans sa vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, patient, vous, Ali, pour vous reposer, pour vous défatiguer, c'est-à-dire pour revenir à notre propre vie. Et c'est là où on va y voir plus clair petit à petit. Et c'est un vrai travail, à la fois un peu psychothérapeutique et à la fois vraiment somatique.
Alors nous recevons énormément de questions sur le syndrome de fatigue chronique. Bonjour Patrick Gignès.
Bonjour Ali, bonjour.
Vous dirigez le centre de la douleur au CHU de Montpellier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement le syndrome de fatigue chronique qui dure au moins 6 mois, c'est ça, et qui ne se récupère pas au repos, c'est ça dans les grandes lignes?
Voilà, les grandes lignes, c'est ça. Bien sûr, il y a une durée qui va compter et on n'a pas a priori une explication précise. Il ne faut pas mettre ça sur le coup d'une fatigue au travail, d'une perte de sommeil. Il faut peut-être aller un peu plus profond, comme on vient de le dire pour les intervenants avant. Il faudra faire un examen un peu complet pour essayer d'éliminer quelque chose de précis. Et quand tout a été éliminé, qu'on n'a rien trouvé de précis, on va alors peut-être porter le diagnostic qui est un diagnostic d'élimination du syndrome de fatigue chronique. Et là aussi, la même enquête dont on vient de parler va encore être approfondie pour essayer de déterminer s'il y a des éléments de comportement de vie, des éléments peut-être anciens dans les fondations de la personnalité qui peut-être ont enclenché ce processus de défense qui est dans la plainte asthénique, la plainte de la fatigue. Ce n'est pas une dépression simple, ce n'est pas un burn-out, c'est souvent une association de plusieurs facteurs qui amènent à cet univers d'un patient qui est fatigué pour le moindre effort, sans possibilité de récupération.
Certains médecins internistes parlent de causes liées à l'inflammation chronique, à des dysfonctionnements endocriniens, musculaires. Qu'est-ce qu'on sait exactement d'un point de vue scientifique sur les causes du syndrome de la fatigue chronique?
Pour l'instant, on n'a jamais pu trouver de marqueurs précis biologiques, ni d'examen sanguin qui peut confirmer cette maladie. C'est donc difficile de lui donner ce caractère nosologique classique qu'on a pour d'autres maladies. Et c'est donc là où il faut avoir une finesse en disant « je vais quand même toujours avoir un comportement de vigilance pour pas avoir si un des éléments biologiques apparaît qui pourrait être salvateur et réglé ». Mais il faut avoir parallèlement une analyse, j'allais dire, anthropologique du comportement de vie du patient. Et c'est cette négociation, ce contrat avec le patient qui va peut-être durer quelques mois, qui est important de mettre en place pour que la confiance perdure. Et pas que le patient fasse un nomadisme médical en cherchant de façon incoercible, illimitée, toujours un examen complémentaire à la recherche d'un signe biologique qui n'existe pas actuellement dans le syndrome de fatigue chronique.
Bonjour Mohamed, bienvenue.
Oui, bonjour.
Vous êtes membre.
Bonjour, merci.
Vous êtes membre de
merci
l'association.
De prendre mon appel.
Vous êtes membre de l'association française du syndrome de fatigue chronique. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots votre quotidien et quels sont les symptômes de ce syndrome dont vous souffrez?
Oui, ben écoutez, moi j'ai 49 ans et je suis tombé dedans, j'allais dire, dans cette maladie-là, le syndrome de fatigue chronique, il y a 9 ans. Ça s'est passé assez brutalement, hein, suite à une infection, une simple gastro-entérite. Suite à ça, une aggravation de l'état général en 15 jours. Se sont installés des nausées, des vertiges, un syndrome grippal, puis se sont installés les symptômes lourds que tout un chacun qui a un diagnostic de syndrome de fatigue chronique connaît, à savoir un épuisement pathologique sévère, hein, parce que c'est vrai que, comme son nom ne l'indique pas, on parle de syndrome de fatigue chronique, mais c'est tout sauf de la fatigue, là, pour ce qui concerne cette maladie. C'est un épuisement pathologique sévère, accompagné d'un certain nombre d'autres symptômes, hein, notamment un brouillard cérébral total, une faiblesse musculaire extrême. Donc, moi, je me suis retrouvé dans un état de très grande faiblesse, un certain nombre de symptômes. Pour vous donner un exemple, j'en ai quelques-uns, pour vous montrer un peu cette une incapacité globale à effectuer de simples tâches de la vie quotidienne. Hein. Au départ, je me brossais les dents, c'était un véritable défi. M'asseoir à table pour prendre mon petit déjeuner, c'était terrible. Et après chaque repas, bien sûr, j'étais assommé.
Mohamed, comment est perçu
pareil, voilà.
Mohamed, comment est perçue votre maladie dans votre entourage, dans votre vie professionnelle?
Alors, dans mon entourage, au début, ça a été très compliqué parce que il a fallu du temps pour mettre un nom sur cette maladie. Moi, ça a pris quelques mois, mais pour bon nombre de patients, c'est souvent en termes d'années. Donc, lorsque j'ai mis un nom sur cette maladie, je suis enfin soulagé. Après, je l'étais beaucoup moins quand j'ai compris de quelle calamité il s'agissait, et donc mon entourage Au départ, et c'est difficile d'expliquer qu'on est malade, surtout quand on a une maladie qui est intitulée un syndrome de fatigue chronique.
Mais est-ce qu'au travail, est-ce que vous êtes
complètement impropre? Parce qu'il est impropre parce qu'en fait aujourd'hui on n'a pas encore une compréhension complète de la maladie. Ouais.
Mohamed, est-ce qu'au travail, est-ce que vous êtes pris pour un gros paresseux, pour le dire un peu trivialement? Est-ce que c'est quelque chose qui revient dans votre environnement professionnel?
Non. Tout à fait honnêtement, j'ai cette chance de bénéficier d'une grande compréhension de mon entourage professionnel, puisque j'arrive à travailler. Moi, je fais partie de ceux qui sont atteints, on va dire, le plus modérément, et j'arrive à travailler, mais au prix de nombreux crashs et au prix de nombreux arrêts maladie. Donc,
bonjour Alexandra.
Mon entourage professionnel le comprend.
Bonjour Alexandra, restez avec nous Mohamed. Vous souffrez également d'un syndrome de fatigue chronique. Comment ça se traduit chez vous, Alexandra? Bienvenue. Bonjour Alexandra.
Je viens d'entendre le témoignage de Mohamed et c'est exactement la même chose, la même chose que lui. Moi, ça a commencé par un simple virus qui a déclenché une fatigue au départ que je pensais banale. Puis en fait, ça s'est installé longtemps à Ajaccio, puisque bon, moi je vis à Ajaccio, donc petite ville de province. Mon médecin traitant me pensait dépressive et maintenait que je n'avais pas de maladie, puisque tous les examens, qu'ils soient sanguins ou IRM, etc., ne montraient rien, puisqu'en effet, rien ne se voit dans les examens. Donc, et moi, j'avais beau expliquer que non, c'était pas une dépression, ce n'est pas que je ne voulais pas sortir de mon lit, c'est que je ne pouvais plus. Et pourtant, j'étais jeune, puisque c'était, enfin, je suis toujours jeune, hein, j'ai que 45 ans, mais j'avais 30 ans. Et j'étais très active et du jour au lendemain, en effet, on ne l'est plus.
Comment est perçue votre maladie par votre entourage?
Alors par mon entourage proche, c'est-à-dire ma famille, j'ai eu beaucoup de chance parce que tout de suite, avant même qu'on sache de quelle maladie je souffrais, j'ai été crue, j'ai été soutenue parce que mes parents, ma sœur, tout le monde me connaît.
Et quelles sont vos stratégies? Vous êtes toujours avec nous, Alexandra. Quelles sont vos stratégies pour surmonter ce syndrome de fatigue chronique? Je crois qu'on vous a perdu, Alexandra. Mohamed, vous, comment vous y prenez? Oui, Alexandra, vous êtes revenue. Oui. Quelles sont vos stratégies pour lutter contre ce syndrome?
Alors, comme il n'y a pas de traitement, hein, c'est une maladie orpheline, ma stratégie, et je pense que c'est la même pour les autres malades, c'est juste de gérer au mieux mon énergie, puisqu'on est tellement fatigué et...
Patrick Gignès, on vient de perdre à nouveau Alexandra. Patrick Gignès, docteur Patrick Gignès, quelles sont les stratégies thérapeutiques pour aider ceux qui souffrent d'un syndrome de fatigue chronique?
En premier lieu, c'est d'abord les croire. Mm-hmm. Ce qui est parfois difficile parce que les médecins ont un rythme de vision des patients souvent très rapide et donc c'est difficile de prendre ce temps d'écoute et de les croire. Deuxièmement, il y a quelques briques importantes à repérer. Souvent, c'est proche des maladies connexes comme les arnoldalgies, c'est-à-dire les maux de tête chroniques, les colopathies fonctionnelles chroniques ou la fibromyalgie. Mm-hmm. Et il faut parfois donc avoir des grilles d'analyse qui sont proches de ces maladies-là, parce que bien qu'il y ait un facteur déclenchant, comme viennent de dire les patients en témoignage, qui sont des facteurs viraux, parfois il y a des comportements de vie qu'il faut essayer de repérer. Deux choses importantes à dire pour les patients, c'est souvent le syndrome de fatigue chronique est associé à des troubles de la respiration la nuit, c'est-à-dire un acné, manque d'oxygène la nuit. Mmh. Donc il faut faire, par exemple, cet examen-là, c'est très important. Deuxièmement, l'aspect diététique. Je crois que la France a le plus mauvais petit déjeuner du monde. Les Anglais ont tout faux, sauf le petit déjeuner. Et souvent, il y a un comportement diététique qui a fini par favoriser la non-récupération, notamment après les cirrhoses. Mmh. Donc, parfois, par les consultations répétées, on va faire prendre confiance au patient et surtout, par ces éléments objectifs, parfois trouver des éléments connexes qui expliquent la rentrée et la pérennité dans la maladie du syndrome de fatigue chronique.
Merci.
Donc la respiration et la diététique.
Diététique, vous parlez de petit déjeuner anglais, parce que c'est un petit déjeuner salé, c'est ça, et qu'il vaut mieux peut-être commencer la journée par un petit déjeuner salé. C'était ça le sens de votre réflexion, Patrick Gignès?
Oui, à part ces deux éléments diététiques, je pense qu'il y a après, derrière... Souvent, ces syndromes de fatigue sont des dérèglements de l'harmonie du fonctionnement du corps. Vous m'entendez?
Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup, docteur Patrick Gignès. Merci, Mohamed et Alexandra. Il est temps de retrouver la chronique de Baptiste Beaulieu.
France Inter, grand bien vous fasse,
Non, apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais une heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, si ça se trouve.
Et voilà, exactement.
Alors voilà.
Bonjour Baptiste Beaulieu.
Oui, Ali, vous savez, j'aime bien partager des messages que je reçois de la part des auditeurs et j'ai reçu ce petit message de la part d'une soignante sur la dure réalité de son métier. Et elle disait, je cite, « Le système est injuste avec nous, on nous presse comme des citrons et je suis invivable chez moi. Surtout lorsque je rentre, je suis fatiguée et ma famille me sollicite. J'ai envie de me cacher dans ma bulle, toute seule, mais cela reste difficile à comprendre pour mes petits mecs. J'ai honte d'infliger mon mal-être à ma famille. » Mais ce message m'a beaucoup touché parce que je m'y suis reconnu. Car enfin, quand je reçois moi une femme victime de violence conjugale, que je sais être victime de violence conjugale, je veux dire, que je dois retirer les agrafes sur son crâne, que son mari attend en salle d'attente, son bourreau attend en salle d'attente, qu'est-ce que vous pensez qu'on ressent? Eh bien, on ressent une immense, une insupportable fatigue. Que faire? Aller en salle d'attente, casser la gueule du mari? Non. D'abord, il est grand et je suis lâche. Ensuite, et surtout, ça rendrait la vie de cette femme beaucoup plus compliquée. Alors, après l'avoir invité à porter plainte de toutes nos forces, toi, tu es là, avec ta fatigue du monde, tu as mal à la tête et à l'univers tout entier, tu rentres chez toi et tu as hâte de rentrer chez toi. Mais comme tous les soirs, eh bien, il y a ce type-là qui s'est garé devant l'entrée de ton parking. Comme tous les soirs, ce type s'est garé là pour aller faire ses courses au Monoprix juste à côté. Il en a pour 5 minutes à chaque fois, il en a pour 5 minutes. Et toi, tu attends avec cette fatigue et ce sentiment d'injustice. Et dans la voiture, ça monte doucement, comme ça, ça se transforme en colère, ça gonfle. Alors tu descends de voiture et tu vas dans le Monoprix et tu achètes du beurre Le Sieur 125 grammes. Et tu te retrouves à écrire sur la voiture du type mal garé, ce pauvre type qui prend pour tous les autres types au monde, pour toutes les injustices au monde, tu te retrouves à écrire ça. Ceci n'est pas une place de parking. Mais comme t'es nul en cuisine, t'es nul en recette et que tu es très très fatigué et très très en colère, que tu n'as pas assez de beurre parce que tu appuies trop fort, parce que c'est le seul endroit où tu peux écraser ton poing quelque part, alors le type à la voiture mal garée découvre, écrit sur sa caisse, ce sibyllin message que n'aurait pas renié Magritte, ceci n'est pas. Ce qui ne veut rien dire, on est d'accord, mais t'avais plus de beurre de toute manière, et tu surprends tes voisins qui te regardent faire par la fenêtre avec tes doigts pleins de beurre, et tu entends ton voisin dire à sa femme, mais si Brigitte, je t'assure, c'est le médecin bienveillant qui écrit des romans et qui passe sur France Inter. Alors que faire pour éviter que la fatigue se change en colère? Acheter du Le Sieur en barrette de 250 grammes au lieu de 125 grammes? Je ne crois pas. Que faire, Ali? Est-ce que vous invitez en des solutions?
Je vais y réfléchir. On va y réfléchir, mon cher Baptiste Beaulieu. Et nous attendons toutes vos questions et vos témoignages sur la fatigue au 01 45 24 7000.
Esselé, j'ai peur de devenir fou. Je vois danser les orages, j'ai peur de devenir fou parfois. Et ce l'est. Et ce l'est. Sur la forêt, la foudre s'abat, je sens sa chaleur. De devenir fou parfois et se l'est. Quand tout devient si noir au fond de tes yeux,
pas, je crois devenir fou parfois. Et ce l'est. Et ce l'est. Te souviens-tu de nous, les phares, tes fleurs, ton visage? Je crois devenir fou. Et se l'est.
yeux. Isia et Dominique interprété Esselé.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h41 et nous attendons toutes vos questions sur la fatigue avec la complicité du mensuel Philosophie Magazine. Marie nous dit, il y a aussi la fatigue mentale, trop de pubs, trop de sollicitations à cause de notre hyperconnectivité. Pierre, dans le même sens, nous demande, est-ce que l'arrivée des smartphones et autres écrans dans nos vies peut être l'un des nombreux facteurs de la fatigue? Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine.
Oui, il est certain que nous vivons dans une nouvelle économie de la continuité et de la mobilisation permanente. Le mobile nous mobilise en permanence. Et je me souviens d'une petite anecdote que racontait le philosophe Maurizio Ferrari, qui disait un soir, à 2h du matin, j'entends mon téléphone qui sonne, je vois un mail qui vient de mon université et je me mets à répondre à 2h du matin à ce mail professionnel. Et il me disait, dans tous les pires cauchemars des critiques marxistes du capitalisme, jamais il n'aurait pu imaginer qu'un salarié répondrait à 2h du matin à une question qui lui est faite par son employeur. Or, nous vivons à cet âge, à cette époque où il n'y a plus, en effet, comme l'a montré Jonathan Crary dans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous sommes dans une société qui est de la continuité permanente, où les fuseaux horaires sont mélangés, mais aussi la différence, l'indistinction entre l'espace du travail et l'espace d'intimité, l'espace de protection qu'assurait l'intimité a été rompu. Et du coup, en effet, c'est ce qui explique probablement en partie le fait que les individus ont le sentiment d'être sous pression permanente parce qu'ils n'ont plus cette protection du foyer notamment.
Philippe Xavier Jab, vous avez dirigé le dictionnaire de la fatigue.
Oui, cette question de la connectivité, de l'hyperconnectivité évoque des textes beaucoup plus anciens sur la surstimulation qu'on a vu apparaître pendant la deuxième moitié du 19e. Comme par hasard, période d'émergence de la neurasthénie, qui correspond aussi au développement des grandes métropoles aux États-Unis et ici en Europe, avec l'apparition des lumières la nuit, des néons, des publicités, des panneaux publicitaires, des journaux, etc. Et déjà, en 1869 et jusqu'au tournant de la guerre, la première guerre, on se plaignait d'être tout le temps sollicité par des messages qui étaient nouveaux.
Docteur Adrien Chaboch.
Oui, tout à fait. Ce qui est pertinent, c'est cette continuum de cette mobilisation qui nous prend. Il n'y a plus de limite. On peut passer son temps à surveiller le cours de la bourse 24 heures sur 24. On peut répondre à ses mails toute la nuit. Et cette continuité va provoquer une rupture. C'est cette rupture dans la vie du patient qui, à un moment donné, débarque en consultation en disant « je suis fatigué ». Ça marque la rupture. Avant, il ne se posait même pas la question de se dire « est-ce que je suis en bonne ou en mauvaise santé ?» Après, tout devient différent. Je suis en mauvaise santé parce que je me sens fatigué.
Alors nous recevons beaucoup de questions sur la fatigue induite par les burn-out, Philippe Xavier-Jean. Quelle est la définition la plus communément admise du burn-out ?
Alors c'est un
vaste sujet.
Oui, c'est un syndrome tridimensionnel. Je vais répéter une leçon que j'ai maintes fois donnée à votre antenne, mais syndrome tridimensionnel qui associe un épuisement physique, une dépersonnalisation, c'est-à-dire, non pas au sens psychiatrique européen, mais une forme de cynisme, d'ironie, de prise de distance excessive, et puis la perte, parfois jusqu'à sa disparition totale, du sentiment d'accomplissement personnel et professionnel.
Qu'est-ce que vous constatez, Adrien Chaboch, quand un patient vient vous voir parce qu'il vous dit souffrir d'un burn-out ?
Une cassure essentiellement. Déjà, ça devient, moi je le constate à mon échelle, mais pas qu'à la mienne, ça devient de plus en plus fréquent, avec des vagues épidémiques, où je peux en voir tout d'un coup 10, 20 qui vont venir me solliciter. Et ce que l'on observe, c'est quelqu'un qui est cassé par rapport à son rapport au monde, cassé dans son corps, parce qu'il y a des retentissements organiques, hein. On parlait du système endocrinien, ben oui, parfois ça joue sur ça, ça va augmenter le risque de développer un diabète, ça va augmenter le risque de décompenser sur d'autres pathologies, le fer dont on parlait, etc. Et puis cassé aussi psychologiquement, mentalement. Et dans le burn-out qui décrit la façade de l'immeuble est intacte, mais ça a brûlé à l'intérieur, c'est ce que l'on voit. Et mon confrère tout à l'heure rappelait à quel point il est impératif de reconnaître la personne et de sortir du discours « oh, c'est rien, c'est dans votre tête. Détendez-vous, reposez-vous. Ça, c'est mortel. C'est-à-dire que ça fait du mal aux gens, ça les agresse, ça ne les reconnaît pas. C'est le transversal au témoignage que nous avons entendu tout à l'heure. L'importance de reconnaître et de dire, ben, je vous crois, je sais, j'ai pas tout compris de votre histoire, mais je vous crois et on va chercher ensemble.
Est-ce que la fatigue psychique est reconnue comme une pathologie à part entière, Adrien Chaboch? Alors, est-ce que c'est le signe avant-coureur, un signal d'alarme d'une dépression, d'un état dépressif? Je pense par exemple au titre du livre d'Alain Ehrenberg, hein, qui parlait de dépression comme une fatigue d'être soi, la fatigue d'être soi.
Mon confrère tout à l'heure parlait justement de l'apparition de la neurasthénie. Freud se décrivait comme un grand neurasthénique. À la grande époque, effectivement, où on rangeait ça dans l'antichambre, effectivement, de la dépression.
Faut être attentif à ces signaux?
Bien sûr, faut être attentif. Parce que le patient, inconsciemment, ou parfois consciemment, vient voir le praticien et va solliciter. Il va dire, il y a quelque chose qui se passe, docteur. Mais comment va-t-il le traduire? Comment va-t-il le mettre en mots? Au travers de tous les mots dont on a donné l'énumération, et il faut que le praticien soit à l'écoute de ces signaux précurseurs qui indiquent la convergence vers une rupture d'équilibre.
Ça se traduit comment, une fatigue psychique, Philippe Xavier-Jard?
J'imagine que les symptômes sont très liés à la personne. J'imagine aussi qu'on peut mettre en avant un certain ralentissement, la difficulté à se concentrer, à mémoriser, bref, toutes les tâches cognitives. Et que c'est finalement assez invalidant dans la vie quotidienne.
C'est proche de la fatigue existentielle, Martin Legros?
Je crois que le burn-out est une...
La fatigue psychique, la fatigue existentielle, s'il y a une porosité?
Oui, c'est d'où la difficulté. Moi, je trouve que ce qui est très difficile dans tous les témoignages qu'on a entendus aujourd'hui, c'est nous sommes tous crevés, mais certains en sont malades. Donc, comment distinguer cet océan de fatigue, les fatigues qui sont des signaux d'alerte de maladies graves, de burn-out, etc., et une fatigue qui est un peu un état partagé, que je dirais qui est presque même aussi une fatigue un peu historique. Les Européens, aujourd'hui, à l'échelle du monde, ne se sentent-ils pas fatigués devant l'émergence de puissances importantes et où l'Europe a l'air fatiguée, tout simplement? Donc, il y a ce climat général de fatigue. Et puis, c'est quoi qui distingue les deux? Moi, je dirais le critère, c'est le fait que ce soit librement choisi. Il me semble que la fatigue saine ou la fatigue raisonnable, c'est celle du sportif, et d'ailleurs qui génère du coup un bon sommeil, parce que elle est librement choisie. Alors que la fatigue pathologique est une fatigue qui est subie, qui détruit, qui consume de l'intérieur les individus. Et donc ce critère me semble important pour distinguer la fatigue que nous partageons tous, qui est inhérente à notre condition, je dirais, de faire l'effort de vivre, d'être, d'exister, et cette fatigue plus qui nous entame, qui est une pression que nous subissons du dehors.
Vous parlez beaucoup quand vous développez cette analyse, parce que depuis quelques années, j'ai une intuition qui serait de lier fatigue et des formes particulières de fatigue avec des atmosphères de fin de siècle, de fin de civilisation. On parlait de la neurasthénie tout à l'heure. C'était pour les sociétés occidentales, européennes notamment, un grand moment de chambardement sociétal avec comme fin de siècle la Première Guerre mondiale. Il me semble que on a à nouveau cette sensation-là. On l'a eu après la Deuxième Guerre mondiale. On l'a à nouveau aujourd'hui. La nouveauté, c'est que souvent, ces sensations de fin de siècle, ces atmosphères de fin de siècle sont attribuées à des mécanismes profonds d'accélération. Sociale, technologique, etc. La nouveauté pour nous, c'est que ces processus d'accélération sont eux-mêmes en train de s'accélérer et que nous sommes en permanence sollicités pour nous adapter à des données nouvelles, voire pour les anticiper. Ce qui se jouait pour les générations précédentes sur 10, 15, 20 ans, donc sur des temporalités relativement longues, se joue sur 2 ans, 6 mois pour nous.
Adrien Chaboch, de façon plus terre à terre, que prescrivez-vous en cas de fatigue passagère?
Et oui, parce que il y a très peu de médicaments, à part les antiasthéniques, quelques vitamines, quelques... Ça va redonner le petit coup de fouet, la petite réamorce. Mais ce que disait Martin Legros, c'est justement le fait que l'activité va nous permettre de nous en sortir. C'est-à-dire que paradoxalement, le meilleur remède contre la fatigue, c'est d'être dans l'agir, dans le faire, et la prescription médicale d'une activité physique régulière. On peut partir sur déjà, mais même ne serait-ce que 15 minutes, deux fois par semaine, pour quelqu'un qui ne faisait plus rien en sombrant dans la fatigue, c'est déjà bien, parce que ça le remet à lui, ça le fait sortir de là où il était empêtré.
Vous prescrivez de la vitamine C, de la vitamine D, et qu'est-ce que vous pensez plus généralement des solutions naturelles comme les plantes adaptogènes, je pense au ginseng, à l'éleutérocoque, est-ce que ça fait partie de votre dispositif
médical ? Oui, tout à fait, parce que ça fait partie des remèdes, ça répond à une demande du patient, non pas tellement en fait qu'elle est sensiblement plus efficace que la vitamine C ou la vitamine D ou d'autres médicaments, ils le sont aussi, les plantes le sont aussi, il y a assez peu d'études
médicales sur le ginseng ou l'éleutérocoque.
Exactement. Il y a aussi le guarana qui est très très dosé en caféine. Mais c'est surtout important, ça va être de répondre à la demande du patient. S'il choisit les plantes, c'est que ça veut dire quelque chose pour lui. On peut l'accompagner dans ce processus. Passer cet réamorçage, c'est d'aller dans ce rapport au monde, de le remettre dans sa vie à lui, très très concrètement. Hein. On a l'impression que c'est un débat philosophique, mais c'est très très précis de remettre quelqu'un dans sa vie. Le sport, les pratiques psychocorporelles, méditer, de l'auto-hypnose, peu importe, une pratique qui va convenir, manger. Ah oui. On en revient en fait à des besoins vitaux, c'est ça qui est étonnant.
Allez, nous attendons toutes vos questions sur la fatigue et vos témoignages au 01 45 24 7000. Que c'est beau, Falls interprété Into the Surf.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Nous attendons toutes vos questions sur la fatigue. Et Fatih nous dit, mon fils de 19 ans se sent très fatigué, même pendant les vacances, docteur Adrien Chaboch. Qu'est-ce qu'on répond à Fatih ?
Alors combien de temps a-t-il pour faire rien ? Mais faire rien, j'ai pas dit rien faire. Rien faire, c'est être devant un écran et manger l'écran. Mais faire rien, produire du rien. Combien de temps a-t-il pour régénérer? Et c'est très très symptomatique de notre société, notamment par exemple, on sait à quel point la problématique des enfants qui ont un trouble déficitaire de l'attention tirait hyperactivité, ce qu'on appelle communément TDAH, est majeur, important, avec des thérapeutiques lourdes, avec un traitement long, bref, c'est compliqué. Mais on se rend de plus en plus compte que parmi ces enfants TDAH, il y en a qui ne le sont pas, mais qui sont simplement fatigués de pas avoir assez dormi. Et ça nous renvoie, nous, parents, à quel est notre rythme. Parce que si il faut rentrer à 20h, arriver à la maison à 20h30, faire les devoirs, vérifier, ou mieux, faire manger, laver, coucher, faire le rituel du sommeil, l'enfant, il peut pas se coucher avant 9h30. Et là, on est en carence de sommeil.
Bonjour Eric Fiat.
Bonjour Ali Rebéi.
J'avais envie de terminer cette émission avec vous. Vous êtes philosophe et vous avez publié il y a quelque temps une ode à la fatigue. Pourquoi avoir écrit un éloge de la fatigue, Eric Fiat?
Ah, écrire une ode à la fatigue, ça n'est pas forcément faire l'éloge de la fatigue.
Ah, expliquez-moi la nuance alors.
Alors, parce que je vais vous faire un petit aveu. J'étais absolument nul en latin, mais cependant, je me souviens qu'une ode, c'est une forme poétique qui a trois parties, la strophe, l'antistrophe et l'épode. Et dans l'antistrophe, je parle en effet de ces mauvaises fatigues dont mes collègues ont fort bien parlé. Vous savez, ces fatigues qui accablent, prostratèrent, laminent, consument les hommes. Ces fatigues qui font que même le sommeil n'arrive à y remédier. Mais je parle aussi des bonnes fatigues. Et puis j'essaie de dire aussi que se fatiguer peut être quelque chose de très beau.
Pourquoi ?
Il s'agit de se fatiguer pour les autres. Alors les bonnes fatigues, c'est la fatigue des amoureux qui ont cueilli toute la nuit dans les bras l'un de l'autre les doux fruits d'amour. C'est la fatigue de celui qui aime son travail et le fait bien. Et alors quand on connaît cette bonne fatigue, en effet la fatigue qu'on s'est choisie, on va au sommeil non pas comme à un refuge, mais comme à une récompense. Mais ce dont je voulais parler aussi, c'est de la beauté qu'il y a, je dirais, à se fatiguer pour les autres, parce que bien sûr on peut être fatigué des autres, c'est parfaitement légitime, les autres sont parfois fatigants, mais il me semble que se fatiguer pour les autres a quelque chose de très beau. Je veux dire par là que si on se réserve, si on s'épargne, si on s'économise toute sa vie, on passe un peu à côté de sa vie. Et je trouve que si à la fin de notre vie, nos rides, nos poches sous les yeux, je sais pas comment le dire, la courbure de notre corps était indice des efforts qu'on aurait fait pour aider les gens qu'on aime à faire le dur métier d'exister, pour les alléger au fond, alors on n'aurait peut-être pas vécu totalement en vain. Et c'est à cette bonne fatigue, d'une part, et à cette fatigue pour autrui que j'ai envie de consacrer cette petite ode. Vous voyez ?
C'est une belle conclusion, ça, Martin Legros ?
Oui,
rédacteur en chef de Philosophie Magazine.
Oui, je partage tout à fait cette idée que la fatigue n'est pas uniquement nécessairement un mal. Je dirais, elle peut être un bien quand on la donne à autrui, mais pour soi-même aussi, elle peut être l'espace d'exploration d'une attention. Et je crois que Eric Fiat a des très beaux passages dans son livre là-dessus sur l'idée que la fatigue est aussi quand on est fatigué, qu'on déambule dans une rue après une nuit entière, eh bien, on est attentif à des choses qu'on ne voyait pas en dehors de la fatigue.
Un mot de conclusion, Philippe Zavieja.
Tout en partageant cette poétique de la fatigue, je voudrais quand même alerter sur le risque d'idéologie sacrificielle qu'il y a derrière, qui maltraite beaucoup, beaucoup de nos concitoyens, nos soignants, mais d'autres, qui se sont volontairement mis au service d'autrui, au détriment de leur propre santé.
Docteur Adrien Chaboche, un mot de conclusion.
Un mot de conclusion, le philosophe Lévinas considérait que la fatigue, c'est notre état naturel et qu'on se défatigue par l'activité saine. Dès lors qu'en revanche, l'activité que l'on fait provoque une rupture par rapport à notre vie, c'est qu'on n'y est plus. Et là, il faut consulter.
Merci à tous. Merci Eric Fiat, Martin Legros. Le tout nouveau numéro de Philosophie Magazine consacré à la fatigue est disponible en kiosque. Docteur Adrien Chaboche, Libérez-vous de la fatigue est édité en poche chez J'ai lu. Philippe Zavieja, votre gros dictionnaire de la fatigue est publié chez Drose. Demain, on s'intéresse aux héritages et aux successions. Nous attendons toutes vos questions au 01 45 24 7000. À suivre, Nagui et sa bande originale.